Depuis septembre 2015, Grenouille mène une action d'expression radiophonique avec des usagers de la psychiatrie et des soignants.
Ça s'appelle « Quelle en est la raison ?» Et comme en ce moment ce sont les semaines d'information de la santé mentale, on y met notre grain de sel.
Ou de folie.
Du 21 au 25 mars, rendez-vous sur les 3-8, chaque jour, à 13h30, pour une série d'émissions.
Rencontres avec des psychiatres, des usagers, des cinéastes, en studio, dans la rue et à l'hôpital.
Psychiatrie et santé mentale en question, une série de programmes
à retrouver du 21 au 25 mars
à 13h30 sur le 88.8
et sur radiogrenouille.com.
Comme une parole de la folie sur Radio Grenouille, nous vous invitons à l'écoute de l'écoute. Celle de Séverine Mathieu et d'Emmanuel Vigier, tous deux réalisateurs et qui pendant près d'une heure partageront avec nous leur expérience d'atelier de création cinématographique avec des usagers de la psychiatrie. En traversant par extrait leur film « Les rêveurs » ainsi que d'autres de leurs créations, nous remonterons le fil de leurs pensées et des références qui ont nourri une parole commune.
Nous allons commencer avec les questions d'usage. Votre nom, s'il vous plaît.
Je m'appelle Séverine Mathieu.
Votre âge ?
J'ai 47 ans.
Vous habitez dans le secteur ?
Et j'habite dans le secteur, c'est-à-dire j'habite à Marseille, mais un secteur qui va jusqu'à Paris, parce que j'habite un peu entre les deux villes.
Emmanuel Vigier, 46 ans. J'habite dans le secteur, moi aussi, pas très loin. J'habite la Plaine, et puis assez souvent aussi entre Marseille et Paris.
Alors, le premier film que j'ai fait, qui a été important, s'appelle « Fille de nos mères », donc qui traite de la façon dont je voyais les femmes de ma famille, mère, grand-mère, sœur, tante, et comment les images du féminin que j'avais reçues m'aidaient ou m'aidaient pas à être une femme. C'est donc commencé en faisant de mon histoire personnelle un sujet, mais et en faisant de ma personne un personnage. Mais ça n'est intéressant que si ça vient rencontrer la grande histoire, si ça se partage, si ça devient un propos collectif. Et cette expérience-là, c'est un foyer au sens que ça irrigue la façon dont je pense je continue de travailler avec les personnes et les personnages qui viennent dans mes films et qui sont certes je m'intéresse à leur intimité mais c'est pas une fin. Ça irrigue et tisse du sens avec un propos plus collectif. Voilà, donc ça c'est le foyer. Après ça, j'ai continué à travailler avec des femmes et souvent sur l'idée de la transmission. Voilà, c'est un chemin parallèle à l'expérience avec la psychiatrie. Je crois pas que tout est lié et bien sûr que il est important de faire autre chose que de travailler en psychiatrie. Je pense que c'est important de pas travailler que en psychiatrie. Mais le travail en psychiatrie, il est parallèle, il est autre. Même si d'avoir travaillé avec mon propre personnage, d'avoir construit un personnage à travers Fille de nos mères, je pense est fondateur même dans le travail en psychiatrie parce que ça, je sais à peu près où je suis et je crois que ça m'aide à faire que l'autre fasse de son histoire un récit. Il y a eu l'écume des mères, donc qui traite de la transmission mère-fille avec des femmes à Marseille appartenant à des communautés diverses et donc dans lesquelles la grande histoire traverse le rapport à la mère. Et puis il y a eu les rêveurs qui fut donc l'occasion de rencontrer Emmanuel et de cheminer avec lui pendant 4 ans. Voilà, un long travail en psychiatrie. Et aujourd'hui, je travaille sur Toi et moi, qui est un projet documentaire dans lequel j'interroge la façon dont les usagers de la psychiatrie, je dis comme ça pour le dire de manière très officielle, mais en tout cas, voilà, les patients, les gens qui souffrent de troubles mentaux, voilà, vivent dans la ville et comment la ville les accueille ou pas dans son sein. On a longtemps dit que la folie faisait exclusion et elle a fait exclusion dans les hôpitaux et qui ont voilà construit des murs entre la normalité et la folie. voir revenir les usagers de la psychiatrie dans la ville, est-ce que pour autant ça relève de l'inclusion ? Voilà, c'est cette question-là qui traverse toi et moi. Est-ce que l'inclusion se fait par l'urbain, par le tissu urbain et par le logement, ou est-ce que l'exclusion demeure ? Et si l'inclusion se fait, c'est à quel prix ?
Si je parle par exemple de mon premier film, j'ai un frère qui déroule une histoire intime dans la grande histoire et qui donne à voir deux frères que tout sépare, enfin qui ont été séparés par la guerre en Bosnie et qui tentent de se rapprocher à travers un film et avec un film. Et moi au milieu, possiblement un troisième frère. Et voilà, ça a été, c'est certainement une expérience très fondatrice dans ma démarche. Alors comme disait Séverine, il n'y a pas forcément des échos de film à film, mais il y a quand même un fil. C'est-à-dire que comment deux êtres que tout sépare parviennent ou non à se retrouver, c'est tout petit, c'est un fil, c'est ce fil qui tend un petit peu mon travail, j'ai l'impression. Donc après ça, il y a eu un film beaucoup plus fragmenté, écrit à plusieurs voix, à travers plusieurs médias aussi, c'était Terre Commune, c'est un web documentaire, mais là aussi, j'essaye de voir comment des personnes parviennent à faire du lien ensemble sur un terrain assez dur, sur une dite marge qui est la rue. Et voilà, ça tend toujours le travail, quoi, ce fil et ce lien et ces ponts possibles. Et c'est, enfin, la question de la frontière est très forte dans mon travail. Et au milieu de tout ça, il y a la rencontre entre Séverine et moi. Mais la rencontre aussi autour de nos travaux respectifs. Moi, quand je l'entends, j'entends aussi sa voix et la voix off qu'il y avait sur l'écume des mers. Enfin, moi, je suis très sensible aux voix et aux sons dans le travail documentaire. Enfin, et de plus en plus aussi, je pense. Et donc, cette rencontre, elle s'est faite autour d'un projet. Enfin, j'aime pas le mot projet, autour d'un travail qui s'appelle Les Rêveurs, qu'on a mené l'un et l'autre dans deux établissements psychiatriques. Et on a tenté de créer une communauté de rêveurs et une communauté de films. Et pas très éloigné, mais là aussi une rencontre, parce qu'on fait pas des films tout seul et que je pense que le collectif dans notre manière de travailler a du poids et son importance et du sens politique. Et là, donc, c'est un travail que je mène avec Lionel Casparian, avec son Provence, qui s'appelle Terrain de jeu, et qui est autour d'un match de foot qui se joue chaque semaine avec son Provence, qui a été initié par deux infirmiers d'une équipe de psychiatrie de rue, de l'hôpital psychiatrique de Montperrin. Et on travaille là ce terrain de l'utopie. Comment fait-on pour continuer à jouer ensemble, coûte que coûte, malgré les accidents de la vie, malgré la folie supposée? Voilà où j'en suis aujourd'hui, où nous en sommes.
Les rêves les plus angoissants sont souvent ceux qu'on se rappelle le plus. Et moi, il y avait un rêve que je faisais quand j'étais plus jeune, où je descendais d'un 4x4 avec deux frères que je n'ai pas dans la vie réelle, devant un bosquet. Un bosquet avec une entrée très architecturale, pourtant naturelle. J'entre dans ce bosquet. L'ambiance est pesante, il fait sombre, il n'y a pas beaucoup de lumière qui perce à travers les arbres. Et il y a de la brume. De la brume qui s'accroche aux arbres, de vieux arbres torturés et noueux. Il n'y a aucun bruit. L'ambiance est pesante. Et là, tout d'un coup, j'entends une voix qui fait « J'arrive !» Et donc, j'ai peur, forcément. Enfin, j'entends une grosse voix. Donc, je me mets à courir. Et là, tout d'un coup, c'est l'obscurité. Je ne vois plus rien. C'est comme si tout avait été... comme si on avait éteint l'écran d'une télévision. Ça s'est coupé. Ça se rallume et je suis en train de courir. Je sens que je vais être rattrapé. Et puis de nouveau, c'est l'obscurité, plus rien. C'est la fin du rêve.
Je me suis réveillé. Est-ce que c'est un rêve qui se répète? Ou qu'une fois?
Je l'ai fait qu'une fois, mais ça m'a beaucoup marqué.
Marqué? Et il est vieux?
Oui, très, très vieux.
S'il marque encore aujourd'hui, ouais, il est vieux. Qui c'est? Celui qui arrive, c'est un homme, une femme?
C'est moi.
C'est toi qui arrives, ouais. qui vient vers toi.
Ah non, c'est...
Qui c'est qui a... Il arrive, qui c'est il arrive.
Moi, je l'ai interprété comme ça. C'est un peu comme le jeu d'enfant, promenons-nous dans les bois.
Ah, comment
le loup n'y est pas.
Ouais. C'est le loup, c'est la menace.
C'est la menace, ouais. C'est le loup.
C'est le loup, c'est pas la menace, la menace.
Dans le jeu, c'est une menace, quoi. C'est,
ouais.
On sait qu'il va arriver, on sait qu'on est sur son territoire, mais que...
Il va nous surprendre.
Qui va nous surprendre, quoi.
Moi, je trouve que le loup, c'est pas qu'une menace. Moi, je trouve que le loup, c'est... Ça nous permet d'aller au-delà de nos peurs, quoi. Ça nous permet de nous rencontrer, de nous dépasser.
Ce qu'on vient d'entendre, alors c'est ce qu'on a appelé le festin de rêve. Donc, au total, il y a 15 films qui ont été réalisés par... 15 personnes, 15 auteurs. Je dis 15 auteurs parce que c'est important. On évoquait l'autre fois, quand on préparait cette émission ensemble, comment vous appelez les gens avec lesquels vous travaillez. Et c'est vrai que Séverine et moi, au début, on a sans doute utilisé le mot passion. Et puis au fil du temps, des séances, de l'atelier, le mot passion disparaît et fait place au prénom. Et il s'agit pour nous de faire émerger en chacun l'auteur qu'il est. Et donc cette séquence de Festin de rêve ponctue l'ensemble du film, parce que plusieurs petits films construisent ce film, Les Rêveurs. Et ce sont des moments qui ont été très construits, mis en scène, où chacun définit son film à venir, mais qui passe par un rêve qui reste, un rêve qu'il a envie de partager avec d'autres. Et là, autour de la table, chacun échange aussi spontanément qu'on l'a entendu, même si, bien sûr, il y a toujours du montage.
Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie?
Avec vous, le spectre du commandeur.
Et pour montrer votre valeur, vous avez invité à dîner avec vous.
Et pour faire croire qu'il avait assisté à ce banquet.
Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais ici, moi?
Vous avez endormi avec un narcotique.
Je ne connais pas le texte.
Extrait du Charme discret de la bourgeoisie de Luce Buñuel. Et alors d'abord, c'est un des films qui nous a nourris dans le processus de création des rêveurs, puisqu'on se passait des films pendant tout le travail, on se passait des films, on projetait des films et on en parlait après, essayant de nous réunir autour d'une culture commune, essayant de faire culture commune, parce qu'un groupe, faut le faire. Donc voir des films ensemble a aidé à faire le groupe. Et puis donc, il a inspiré notre festin, puisque nous-mêmes, nous avons fait ce festin sur une table, sur une scène de théâtre. On a tiré une longue table sans spectateurs. C'est-à-dire qu'on a fait ce moment-là sur une scène, devant des gradins vides. Et le qu'est-ce que je fous là, il est très beau parce qu'il vient résumer peut-être la question du fou. Et peut-être la question de la création aussi. Hein. C'est une façon de répondre à cette question que de créer.
Et puis, je pense que c'est aussi un film un peu fou, mais du côté de la folie douce et légère et ludique. Enfin, alors je sais plus si c'est Carrière ou Buñuel. Enfin, en tous les cas, il y en a un des deux qui raconte à l'autre que la semaine dernière, ils avaient un dîner, qu'ils sont arrivés, et puis ils se sont trompés de jour et d'horaire, et donc il n'y avait pas de dîner. Et l'autre de lui dire, si on en faisait un film. Alors, il est un peu interloqué, mais enfin, c'est n'importe quoi. Et ils vont en faire un film. Dire que... Et ça, moi, j'aime beaucoup cette idée-là de... qui est un peu folle, mais qui est vraiment du côté de la spontanéité. Et de la même manière, le titre, il y a eu un jeu entre eux. Donc, ça donne un truc assez foutraque et très beau, parce que, comme dit Séverine, là, dans ce « qu'est-ce que je fous là ?» Waouh, ça interpelle sacrément. Et voilà, c'est un film qu'on a regardé tous ensemble qui nous a beaucoup désinhibé aussi.
Mais ce que je trouve difficile, ce que j'ai trouvé difficile, et moi je trouve que toute la gageure des rêveurs était là, c'était d'arriver à traduire quelque chose de cette absurdité-là, de cet onirisme-là. Et en fait, moi j'ai démarré le projet des rêveurs, j'ai démarré le désir de ce projet-là parce que j'essayais de faire des films avec mes rêves. Et que j'y arrivais pas. Et je me suis dit à un moment qu'en fait, c'était une matière qui pouvait être rendue collective et qu'on pouvait travailler de manière collective et que j'y arriverais mieux comme ça.
Ces moments de festin ont été bien plus importants qu'il n'y paraît. C'est pas juste un truc, c'est pas juste « Ah tiens, on aime bien le film de Buñuel, on va faire pareil ». C'est-à-dire que vraiment, ça a permis de partager du récit, partager de la création à venir, et j'en reviens à ce mot de communauté de rêveurs, et de la faire émerger. Et donc du coup, ça a aussi eu son implication dans le faire des films. Et comment les équipes aussi se sont constituées autour de chacun des films qui vont se faire après ce moment-là, un peu fondateur, un peu surréaliste, un peu fou, parce que c'était quand même très étrange de se retrouver tous ensemble autour d'une table, sur une scène sur un plateau, à parler de nos rêves.
Et ce fut le premier tournage. C'est la première chose qu'on a tournée. Donc je pense que c'est le premier pas vers la mise en scène de soi. Et c'est de ça dont parle l'extrait, hein, de comment commencer de se mettre en scène et de pas s'être rendu compte qu'on s'était mis en scène, ou en tout cas de pas s'être rendu compte qu'on avait été mis en scène. Et notre festin à nous a été le premier moment où ils ont signé le processus de se mettre en scène. Alors par le récit à ce moment-là, par la parole, mais voilà, on enclenchait le filmage et donc le fait que chacun allait devenir un personnage à partir de lui.
Là, 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 la 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 la.
Si deux personnes rêvent en même temps l'une de l'autre, exactement dans la même seconde, Si je rêve, à l'instant même,
au même instant,
moi de toi, et toi de moi,
et moi de toi.
Moi de toi, et toi de moi,
toi de moi.
Si tu rêves, au même instant, à l'instant même, moi de toi, si je rêve,
précisément là.
Réel, c'est le rêve, vrai le rêve. Réel, c'est le rêve, vrai le rêve. Si je rêve, si tu rêves, à l'instant même, au même instant, moi de toi, et toi de moi, et moi de toi, si tu rêves, si je rêve, alors, précisément là, 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 précisément là, 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 là. Réel, 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 se fait le rêve, vrai le rêve. Réel, 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 se fait le rêve, vrai le rêve.
Ce qui me frappe en le réécoutant, c'est le vent. Donc c'est le rêve d'un, c'est le rêve et le film d'une des participantes de l'atelier, Marie-Ange, dont on entend la voix au début, qui chante par ailleurs et qui avait fait ce rêve, donc d'avoir rêvé cette phrase, et elle a construit son film à partir de cette phrase. C'est un des moments où on a réuni les deux groupes sur une route venteuse pour traduire son rêve. Donc c'est un des moments où les deux groupes se sont réunis. Donc en termes de rencontres et de tournage, c'était assez fort. Et
oui, parce qu'il y a eu des croisements aussi de film à film. Certains venant jouer dans les films des autres, et ça c'était important aussi, dans la rencontre autour de la création de deux équipes de soins, ce qui n'est pas gagné dans les institutions du tout.
Et donc, en le réécoutant, je sens très fort que cette personne qui est une soignante, sa voix seule entoure les moments où les voix des autres et de tous les autres chantent en marchant. Et je sens très fort combien il y a de la matrice qui accueille les trajets des autres et qui rend possible les trajets des autres. Et je trouve que ça représente assez bien le travail qu'on a fait de faire une matrice, une grosse, enfin un groupe qui pouvait comme ça accueillir les bribes de chacun d'entre nous. Moi, je résumerais assez bien les rêveurs comme ça, cette aventure-là comme ça, comme ce groupe qui, à un moment, permet à chacun de trouver sa place et d'aller plus loin que ce qu'il est isolément. Voilà, donc c'est...
Nous, on a beaucoup marché aussi. C'était un peu un autre écho au Buñuel. Parce que le film de Buñuel est ponctué comme ça de longues marches un peu indéfinies avec tous ces gens qui n'arrivent pas à se retrouver pour dîner. Là, c'est tous ces gens qui arrivent à faire un film autour de leurs rêves. Donc, on a beaucoup marché.
Et on a eu beaucoup de mal à trouver une route.
Ouais.
Une route fermée à la circulation sur laquelle faire le même. Avec laquelle faire écho au film de Buñuel. Et une route fermée à la circulation a quelque chose d'un peu absurde, comme dans le film de Buñuel.
Donc tout le monde a quel bal se balle. Et ensuite le banquier, la marquise.
Je l'ai fait ça
avec. À trois, tu nous fais la marquise
Oui, général en même temps. Si
oui,
tu peux.
Oui, j'aimerais bien. Tu peux faire les deux personnalités. Alors, donc tout le monde. Excusez-moi, je me suis blâdé. Ça devrait être. On va le faire sans l'accordéon parce que sinon on ne va pas chanter. Jiaou, 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 tou, oui, oui, oui. You, 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 ah. Alors, avec tous les autres invités avant, on va enchaîner les deux. Ok. Oui, vous étiez un peu en dessous, mais c'était à peu près ça.
En dessous de quoi?
Au point de vue volume, il faudrait que ça sorte un petit peu.
D'accord,
plus, un petit peu plus fort.
Ah ouais. Pour retenir ça, ça va pas être coton. Hein.
Non, on essaye, là.
Réessayez-le.
Ou tout, oui,
j'en mets trois de oui, oui, oui.
Tu mets trois,
oui. You, j'en mets quatre, et j'en mets quatre.
Voilà, on le notera avec
d'accord.
Un stylo.
Quatre, mais plutôt que de le lire, Jacques, il vaut mieux l'apprendre. Le répéter un petit peu pour que ce soit du par cœur.
Oui.
qui n'est pas à réfléchir là-dessus.
Oui, et puis il rajoute un you.
Ça fait trois you. Quatre
you. Ça fait quatre you et trois oui.
Ou tout oui, oui, oui.
Et des oujia, il y en a deux.
You, 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 il y en a quatre.
Et les dia oujia, il les garde, je crois.
Oui, c'est comme ça.
Ou tout, oui, oui.
Ou tout, oui, oui.
Ou tout, oui, oui, oui.
Oui, oui, il rajoute un oui.
D'accord.
Et you, 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 you.
Il rajoute un you.
Il rajoute un you.
D'accord.
On le refait, Jacques ?
Ouais, ouais, il faut le refaire.
Alors, avec l'enchaînement de tout le monde ?
Oui.
Quelle balle se balle ! Ah ah ah, ça c'est pas mal ! Dja, 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 oui, 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 you, 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 ah
bon, ça va.
Ça va, ça va.
On
ça
dira
va.
Que ça va.
Ah là là là, quelle balle se balle ! Moi, c'est un film que j'ai vu à sa sortie, donc je pense que ça devait être, on se demandait avec Séverine, 95, 96, quelque chose comme ça. Je pense que c'est un des premiers, si ce n'est le premier documentaire que je vois, en tous les cas à l'époque, j'en ai vu d'autres depuis, tourné dans un établissement psychiatrique. Et je ne l'ai pas revu depuis. Quelle balle se balle ! Moi, ça m'accompagne depuis 20 ans. Enfin, c'est quelque chose que je fredonne beaucoup. Peut-être ce qu'on n'a pas dit quand même, qui est quand même important, c'est que la moindre des choses, c'est un film tourné, semble-t-il, le temps d'un été, en tout cas le temps d'une création, à La Borde, qui est une clinique, qui est un établissement essentiel dans l'histoire de la psychiatrie en France.
Et de l'antipsychiatrie.
Et surtout de l'antipsychiatrie.
Et l'héritage de l'antipsychiatrie. Ouais.
Il y a une joie certaine dans ce film. Vraiment, 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 vraiment. Et sans doute qui continue à m'accompagner, je crois. Mmh. Donc il y a des films qui marquent. Mmh. Encore une fois, je ne l'ai pas revu. Mmh. Je ne sais pas comment aujourd'hui je le recevrai. C'est toujours extrêmement jubilatoire, je trouve, que d'écouter des films, en fait. Comme on est en train de le faire en ce moment, parce que ça...
Et on entend la voix de Marie de Pucet qui, au début, dit « Je te fais les deux, je te fais le général et la marquise. » Et à quoi il lui répond ? Et elle lui répond « Je peux te faire deux personnes en même temps », qui est un jeu de mots, enfin, qui est une évocation de la maladie et qu'on peut être... une évocation du dédoublement de personnalité. Et Marie de Pucet, c'est quelqu'un qui nous accompagne... Enfin, moi, qui m'accompagne fort, parce que c'est elle qui a écrit « À quelle heure passe le train avec Jean-Houry », qui a été un livre de chevet. On l'entend là, sa belle voix.
On en a, je crois, un morceau quelque part d'un extrait de Marie de Pucet.
Dieu gît dans les détails.
Ouais. Je vous lis juste la première page de Dieu gît dans les détails. Je suis arrivé à La Borde un jour d'été, j'avais, il me semble, 20 ans. C'était la fin d'une guerre, un ami sortait de prison. Il faisait beau, son amante du jour était médecin à La Borde. La clinique avait un grand parc ouvert sur le pays de Loire. C'est comme ça que je suis arrivé. Je me souviens de l'éblouissement devant le château, tranquille sous la lumière de l'été. C'était l'heure du goûter. Il y avait dans la cuisine une odeur de pain grillé. Je posais mes bagages, à cause de l'été peut-être, ou du pain grillé. À cause de cette collection hétéroclite d'êtres qui avaient droit à l'heure du goûter. C'était comme une famille qui ressemblerait à des êtres amochés par leur famille, leur en offrant une, de hasard, dépourvue de malédictions particulières.
Si on définit l'antipsychiatrie sur le fait de... Si ça vient sur la question de vivre ensemble, nous, l'atelier qu'on a fait, Les Rêveurs, ce fut un moment du vivre ensemble, mais un vivre ensemble qui a été borné dans le temps et qui a duré un certain temps. Et c'était un vivre ensemble qui était ponctuel dans la semaine. Donc on ne peut pas dire qu'on vivait ensemble. Mais il y a quand même quelque chose de vécu dans le temps. Et c'est une fausse famille aussi, enfin une non-famille aussi.
Sans aller jusqu'à faire des... Enfin, peut-être, c'est un écho possible. Mais au fil du temps, nous ne sommes plus que des rêveurs et des auteurs des films de nos rêves. Et donc, il y a une forme d'indistinction quand même qui se crée au fil de la création et de l'élaboration des films, qui fait qu'on ne sait plus très bien qui est... Alors, on le sait quand même toujours un peu, mais en tous les cas, dans le temps de l'élaboration des films, Florence n'est plus tout à fait psychologue, moi je suis plus tout à fait cinéaste, et... Enfin, nous sommes tous auteurs, quoi. Enfin, moi, en tous les cas, je suis plus forcément celui qui vient de l'extérieur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un langage commun, et on essaie que ce langage commun, ça soit le cinéma.
Et c'est le cinéma, en tout cas c'est le film qui fait la maison. C'est-à-dire que c'est plus les murs de l'hôpital ou c'est plus la cuisine, c'est l'œuvre qui se met à faire maison et on la porte et, parce que les patients ont beaucoup accompagné toutes les diffusions des films et donc ils portaient la maison. Et donc elle devient virtuelle la maison.
intéressant dans cette expérience, c'est que nous, quand on recueille le récit d'un rêve, on peut tout à fait demander aux parents. L'analysons, par exemple, de répéter un rêve dans une même séance et vous avez une autre version. C'est-à-dire, le rêve, c'est d'abord un jeu d'images, c'est d'abord une petite cinématographie.
Et il se
transforme. La petite cinématographie, on y a un terme, on y a accès que par les mots. Que, et bien évidemment, ce sont toujours des mots approximatifs. C'est une
des mots mis sur des images.
Sur des images. Et dans le dialogue, il y a un remaniement des images. Parfois, les images deviennent des mots. Il y a un effet de rire, comme s'il y avait un clin d'œil, un rébus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on va passer par la répétition langagière, on va l'entendre aussi comme un mode d'adresse à l'autre dans le transfert. Est-ce que tu vas m'entendre comme ma mère m'entendait, ou mon père m'entendait, ou ceci, cela. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez prendre le récit du rêve, les récits du rêve, les faire répéter à des fins, non pas d'élaboration du rêve, mais d'un retour autre au monde des images. Vous ne refabriquez pas du rêve, vous refabriquez des images dans un mouvement d'écriture. Le drame du psychotique, c'est qu'il ne peut plus écrire, il ne peut plus trouver un style. Il est écrit, il est emporté. C'est pour ça que je pense que même un patient, un grand psychotique, asilisé, qui fait une fois l'expérience de cette rencontre ouvrante, ça ne va pas le sortir de sa psychose, mais obligatoirement, ça dessert un étau, une impasse. J'ai du mal à imaginer que ça n'est pas défait.
Mais psychotique ou pas ?
Psychotique.
Je pense que, quel que soit parmi nous qui faisons ce type d'expérience, c'est plus pareil avant qu'après. Même si fondamentalement, il y a des choses qui ne sont pas changées de notre structure. C'est sûr. C'est pas réservé à la psychose.
Oui, ça dessert un étau. Alors là, on vient d'entendre principalement Yves Lugrin et Alain Lemozov, qui sont l'un et l'autre psychanalystes. Donc ça, c'est une rencontre qu'on avait initiée, Séverine et moi, pour avoir un retour, un autre regard sur ce travail-là. Les rêveurs ont beaucoup voyagé. Et ça a été un temps de réflexion qui était un temps important, parce que pendant tout le temps de l'élaboration de ces films, nous étions bien gardés de toute forme d'interprétation. Et à mon avis, ce qui était une condition sine qua non pour que les films puissent se fabriquer.
C'est sûr que ce qui nous intéressait davantage et ce qui, moi, me touche dans ce qu'il dit, c'est cette histoire du retour aux images. Alors oui, on ramène les rêves aux images et les rêves proviennent d'images, mais je pense que c'est pas tout à fait les mêmes. Et je pense qu'il y a un écart entre la façon dont on imagine les images d'un rêve et comment finalement, on les met en scène et on les monte. Et cet écart-là, je pense qu'il est important. Je pense que c'est important que les films ne soient pas l'équivalent du rêve, parce que sinon, ce serait faire advenir dans le réel quelque chose qui était de l'ordre de l'imaginaire. Et il y a des échos entre le réel et l'imaginaire, mais je pense que les films font un pas de côté par rapport au rêve, ce qui, d'après certains soignants, est assez salvateur. Après ça, ce qu'il dit d'intéressant, c'est qu'un psychotique ne s'écrit pas. Mais je ne sais pas si c'est complètement vrai, parce qu'en même temps, on travaille avec des gens qui arrivent quand même à s'écrire, un peu à écrire, un peu. Alors moi, j'écris, et puis il y a des choses qui m'interdisent d'écrire dans ce qu'ils disent. Des fois, il me dit « Non, t'écris pas ça ». Donc oui, je fais ce que Uri appelle la fonction scribe, mais il y en a qui écrivent quand même, il y en a qui arrivent à écrire et qui posent des productions textes sur la table très fort.
Après, si certains n'arrivent pas à écrire, d'autres les aident à écrire. Il y avait ça aussi, je pense à une réalisatrice en particulier qui n'écrit pas, qui est fort présente dans le groupe, dans l'atelier. Et c'est justement par le groupe que ça va passer, que le film va pouvoir se faire. Mais c'est dans un bricolage collectif constant qu'il faut savoir accueillir. Ça nous demande à nous beaucoup de souplesse, mais c'est du bricolage. Mais j'aime bien ce mot.
Un matin d'hiver, je suis interpellé par Véronique. L'écriture, ça t'intéresse ? Tu devrais venir à l'atelier écriture. Peu propice au travail intellectuel, Mes activités sont plutôt manuelles et sans intérêt. Mes premiers travaux sont laborieuses, courtes, en mal d'inspiration, quelques lignes et c'est tout. Au fil des séances, je deviens plus habitué aux thèmes et textes que les participants abordent avec facilité. Le théâtre, puis l'écriture des pièces, je prends de l'assurance et de concentration sur le travail collectif de l'écriture. Nous interprétons nos écrits sur scène. Un de mes textes est retenu et que j'ai joué. L'encadrement nous amène même en ville pour décrire l'observation des rues, des immeubles et même les toits, le ciel. Et la cinématographie apporte une nouvelle façon de travailler les scénarios, l'imagination, les dialogues, les rêveurs façonnent les uns et les autres pour permettre la réalisation des extraits de films. L'atelier d'écriture, c'est une réunion d'amateurs, des mots, des phrases autour d'un thème, proposé par le ou les animateurs des équipes d'infirmières présentes pour encadrer les patients désireux de passer un bon moment ensemble. L'écriture, c'est un effort intellectuel de ceux qui n'ont plus l'habitude de fournir un travail intellectuel, mental, qui ne prend qu'un moment, une heure ou deux, une matinée ou un après-midi. Paul.
Paul qui fut un des rêveurs et qui a signé un des films qui s'appelle Traversée. Oui, non, je suis très touchée, moi je le découvre ce son et on sent dans l'effort de sa voix que ce qu'il a à dire ça vient de loin et ça remonte péniblement hein, jusqu'à
Paul est souvent très silencieux. Donc là c'est très très touchant de l'entendre entendre sa voix, la musicalité de sa voix.
Mais il dit fort qu'il écrit hein. Il dit fort qu'il écrit, donc moi je veux. On débat avec les phrases d'Alain et Yves là, mais il écrit. Et toute la gageure était de déplacer son écriture et pour à partir d'une grande expérience qu'il avait dans l'écriture littéraire, d'amener ça vers le cinéma et que l'écriture en cinéma elle est pas la même, elle est vouée à disparaître parce que l'écrit, le scénario est voué à se fondre dans le film. Et donc toute la gageure était de tirer des scènes à partir de ses écrits. Et Véronique, qui l'évoque au début, est une des infirmières et qui a été très importante pour faire ce travail-là, parce que c'était un vrai travail de traduction pour amener ces mots aux images. Voilà, mais pour autant, c'est quelqu'un qui est peuplé de mots, enfin, et qui arrive à les écrire. Mais il parle mieux que nous là. Enfin, je sais pas, je trouve qu'il parle magnifiquement de qu'est-ce que c'est que le chemin de l'écriture, bien mieux que.
Je crois que ça n'est pas entendu, effectivement, qu'on a beau faire ce travail de révélation. Avec les listes, en donnant les noms, en inscrivant des formes. On a beau faire ce travail de révélation, ça n'est pas entendu. Il y a un déni, toujours. Il y a effectivement un écran. Voilà, un écran. Après, on n'est que des êtres humains, on fait ce qu'on peut. Peut-être qu'on ne peut pas tolérer, c'est trop dur, quoi. C'est trop dur. Il y a une proximité dans la mort de la rue et la mort dans la rue qui est étonnante parce que à la fois ça pourrait être nous-mêmes et à la fois la société le traite comme si c'était très très éloigné. D'où cet écran, je pense.
D'où cet écran. Donc là, la voix qu'on vient d'entendre, c'est la voix de Régine, qui est une citoyenne engagée au collectif des morts de la rue à Paris. Une voix, je parlais des voix tout à l'heure, et de l'attachement que je peux avoir aux voix et à leur tonalité, et j'aime beaucoup cette voix-là. Donc Régine est engagée dans ce collectif depuis une dizaine d'années. En quelques mots, le collectif des morts de la rue dénonce de plusieurs façons les conditions de vie qui mènent à la mort dans la rue et de leurs actions, et de tenter de rendre visible ce phénomène-là en organisant des rituels, des manifestations dans l'espace public. Et là, Régine insiste sur le fait qu'ils ont beau essayer de rendre visible, eh bien, il y a quelque chose qui shop, ça ne l'est pas, ça n'est pas entendu. Voilà, et donc ça fait partie d'un travail, je l'évoquais tout à l'heure, Terre commune, qui est toujours en ligne et que j'ai conçu avec plusieurs autres partenaires, une photographe avec Alexa Brunet, un créateur sonore, Jerry Petit, et c'était Renaud Verset, le directeur artistique du projet. Il y a beaucoup de collectifs aussi dans cette histoire-là, tant dans la façon de faire que tenter de poser un regard sur cette action très politique qui reste toujours dans une certaine mesure dans une invisibilité, mais comme le dit Régine, peut-être qu'on n'arrive pas à voir.
Ce que je trouve dommage, enfin à la fois c'est un peu délicat à dire ainsi parce qu'il peut y avoir des quiproquos dans la façon de l'énoncer, c'est que on voit l'issue de la rue soit comme la mort, soit comme revenir là où on était avant. D'accord, ok, il faut de la réinsertion, ok. Moi, c'est comme quand quelqu'un a une dépression. J'ai dit, mais après votre dépression, vous n'allez pas revenir comme avant, il faut revenir mieux qu'avant. Ou sinon, c'est pas la peine, on va y retomber. Et si les gars et les filles qui traversaient cette expérience trouvaient une issue mieux que celle où on est, au lieu de tout le temps vouloir les faire revenir là où on était, c'est-à-dire les remettre dans une position où, par définition, ce sont les fragiles qui vont tomber en premier. À quoi ça joue, sauf à avoir des boucs émissaires? Alors, évidemment, ça peut faire quiproquo, hein, ce que je dis. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas faire de réinsertion, je veux dire qu'il faudrait réfléchir à cette donnée, et c'est ça la transmission. Quand je parlais de la transmission, ils nous transmettent quelque chose de l'ordre de la critique de nos systèmes, qu'il faut entendre, au lieu de vouloir les remettre dans nos systèmes en disant « ils sont tombés ». Ils sont tombés parce que le système ne va pas.
Là, je pense qu'il y a un écho assez fort et un lien avec le travail que j'ai pu mener en psychiatrie. Dans la manière dont parle Régine de « il faut les entendre », je pense que c'est vraiment très important. Et on a entendu Paul tout à l'heure, et moi j'aime entendre Paul, et j'aime écouter les gens dans la rue. C'est pas juste une posture, c'est-à-dire que il me semble qu'il faut savoir aussi, par les travaux qu'on fait nous, pouvoir entendre ces voix-là qui nous parlent aussi de nous-mêmes. Alors ça demande du temps, c'est souvent sur le fil, et je crois que c'est très important ce qu'elle vient de dire là, Régine.
Oui, moi, ça me fait penser à une des participantes que j'écoute en ce moment dans Toi et moi, qui, avant d'être hospitalisée et d'être maintenant dans un logement, a été à la rue. Parce que ça communique quand même, la rue avec l'hôpital, et il y a ce maillon entre les deux qui est le moment où ils quittent la rue et sont pris en charge par des équipes de rue ou par des psychiatres de rue ou par le 115. Mais voilà, il y a un moment où la transition se fait, et il y a une des participantes qui dit que quand elle était hospitalisée, elle pensait à la rue parce qu'elle avait envie d'y revenir et qui voulait retourner à la rue et qui n'arrivait pas à se sentir bien à l'hôpital et qui n'arrive toujours pas à se sentir bien dans un logement et qui continue d'avoir des appels de la rue. Et soudain, ça déplace des certitudes quand même, ça, parce que nous, on pense tous que c'est beaucoup mieux d'être chez soi qu'à la rue. Mais soudain, ça déplace des certitudes. Et en fait, la liberté qu'elle trouve dans la rue, moi, je voudrais arriver à le dire sans aucun romantisme et sans aucune démagogie, hein, mais parce que j'ai plutôt tendance à dire que moi, je veux pas vivre à la rue. Donc voilà. Donc pourquoi elle y trouve quelque chose qui finalement déstabilise nos certitudes. Elle y trouve une liberté et elle y trouve, je crois, surtout la possibilité d'échapper au système de l'hôpital et au système de la société qui sait où sont les gens toujours. Elle échappait aux grilles et aux grilles qui permettent de savoir où chacun est à chaque moment. Et elle trouvait dans cette façon de squatter des moments de liberté. Et je dis pas qu'elle a raison, je dis pas qu'on a raison, mais soudain, ça éclaire autrement les réalités.
Oui, mais je pense que c'est important de pouvoir en entendre ces voix-là qui sont pas aussi rares qu'on le pense. Et moi, je pense, pour le coup, mais on y reviendra peut-être après, au travail qu'on fait avec Lionel avec sur Terrain de jeu. Ce sont des mots que j'ai entendus et qu'il nous faut écouter, je pense, avec beaucoup d'attention et qui bousculent, évidemment, que ça bouscule des a priori, peut-être des certitudes, mais...
Et allant dans le même sens, il y a un autre participant qui dit qu'il est du côté des esclaves et qui dit que les soignants, et moi aussi, mais je suis pas une soignante, sont eux du côté des maîtres et qui lui se situe du côté des esclaves. Et j'ai pas eu le temps d'interroger davantage ce que ça veut dire, mais c'est pareil, ça interroge quand même socialement et politiquement le qui fait les cases et qui met les mots et où on se situe dans ces cases-là.
Et après avoir fini mon contrat, je suis redevenu comme j'étais avant. Alors ma référente m'a proposé de retourner à la Croix-Rouge et tout, j'ai dit non. Voilà, ça fait que là je dors sur le stade. Là vous voyez les terrains de tennis, je dors juste là. Je cache mes couvertures et tout ça. Je peux dormir sur ce terrain-là, comme le terrain là-bas. Mais bon, après le matin, il faut se lever bonne heure et prévoir que les gens ne vous voient pas. Parce qu'après, vous savez que les gens ne vous regardent pas de la même façon. C'est une chose que c'est vrai que les gens ne comprennent pas. Voilà, ça peut être parce que vous avez le club de tennis, vous avez le club de rugby, vous avez le club de handball, vous avez le CFA qui est juste à côté, et vous avez des gens, comme beaucoup de personnes viennent ici, et qu'après il faut faire attention à ces affaires, c'est-à-dire que c'est tout ce qui a couverture et tout ça, il faut bien les cacher. Parce que même que vous vivez dans la rue, il faut faire attention, il n'y a aucune pitié. Dans le stade, en fin de compte, c'est pas que je l'ai choisi, c'est le stade qui m'a choisi. Parce que de tout jeune, moi, j'étais dans le football. Et moi, ça me plaît parce que le stade, c'est un truc là où je peux m'épanouir. C'est-à-dire que je peux voir les gens qui jouent au rugby, au ballon, qui courent et voir les matchs de tennis. Je préfère mieux être sur un stade que traîner au centre-ville. Pour moi, c'est un truc de sécurité. C'est-à-dire un stade, quand tout est éteint, il n'y a plus personne. Ça n'a rien à voir avec un parc. Et c'est plus appréciable. Parce que le matin, c'est encourageant, c'est que les gens ils courent, ils passent devant, ils disent bonjour, ici et là. C'est que dans un parc, vous ne savez pas qui vous allez croiser. Vous ne savez pas si le mec il a un couteau, si, vous ne savez pas. On peut dire que je suis ton collègue, qu'après, voilà, il va voler le sac, il va voler la sacoche, on ne sait pas. Moi, je sais que depuis que je suis là, sur le stade, je connais le gardien, je connais la gardienne du Château de l'Horloge. C'est plaisant parce que c'est des gens que, du moment que vous laissez le lieu propre, là vous voyez que vous avez une intention de respect. Mais si vous allez dans un parc, c'est le bordel, vous faites partie des meubles. C'est-à-dire qu'ils vous prennent et vous mettent dans le même sac.
C'est le stade qui m'a choisi. Donc ça, c'est un extrait du travail en cours qu'on mène avec Lionel depuis plus d'un an maintenant. On va au moins deux fois par mois jouer avec un ensemble de joueurs du Jazz de Bouffon. Donc sur ce terrain de foot où est organisé un match par une équipe de psychiatrie de rue avec d'autres partenaires sociaux aussi. C'est plutôt un endroit où on va observer, jouer. C'est pas forcément un endroit où les gens viennent se raconter. Mais parfois ça arrive, il faut savoir aussi l'accueillir. Et donc ce jour-là, c'était au début de l'été. David est d'abord venu nous parler de foot et de Giresse et de ces figures qui l'accompagnent. Et puis petit à petit, il nous a parlé du moment de sa vie qui était fort lié à ce stade. Moi, c'est un son qui me touche beaucoup parce que à la fois il parle de sa vie et à la fois il parle de ce terrain qu'on ne cesse de travailler qui est proche un peu pour nous d'un terrain du possible et de l'utopie et là qui est qui est quasiment incarné puisqu'il dort et que et dans la manière de le définir, il va même jusqu'à dire que peut-être il le protège. Et, voilà, c'est un moment, dans tous les cas, on ne sait pas ce qui va devenir au montage, mais en tous les cas, ça a été un moment important dans la construction du film.
J'habite dans une maison gouvernante au 36 de ce boulevard. Et donc, c'est-à-dire que c'est comme un foyer. Mais à la différence que dans un foyer, les gens sont un peu laissés libres. Nous, on est un petit peu... on a une gouvernante qui nous dit, qui nous demande de faire certaines choses le matin. Par contre, l'après-midi, on peut sortir comme on veut. Voilà. On est quatre pour l'instant parce que la cinquième colocatrice est absente pour des raisons, pour des petits problèmes, voilà. Donc là, on est quatre plus la gouvernante. Et donc le matin, on nous réveille pour que nous fassions le ménage. Bon, il y en a qui traînent un peu. Il y en a qui sont réveillés. Et donc, voilà. Sauf qu'en ce moment, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Donc, je ne suis pas forcément la première réveillée, voilà. C'est une maison de soins. Parce qu'on a quand même pas mal de pathologies. Et c'est des pathologies moi, par exemple, je sors d'une grosse dépression. Je vais parler de moi plutôt que parler des autres. Et bon, c'est pas facile d'habiter dans un espace où il y a... Alors c'est pas facile de parler comme ça à propos d'un espace qui est intime. Donc je préfère ne pas trop en parler. Par contre, je parlerai des bruits que j'entends quand je suis dans mon logement. Et qui me permettent de mieux trouver mon équilibre, de m'ancrer dans le réel, voilà.
Et c'est quoi ce son ?
Ben, par exemple, voilà, vous avez le tramway qui passe. Voilà, c'est quelque chose, moi je trouve que c'est quelque chose d'agréable, parce que ça fait partie de la vie du quartier. Voilà, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore comme autre son ? Il y a le son de ma radio, parce que j'écoute une radio dans ma chambre qui me permet de mieux me recentrer, m'équilibrer en quelque sorte. Voilà.
Et les sons à l'intérieur de votre logement, c'est lesquels ?
Alors, à l'intérieur de mon logement, c'est les voix des colocatrices, c'est les voix de la gouvernante. Bon, c'est quelque chose... à laquelle je suis habituée et qui me pose pas trop de problèmes. Donc, mon rôle, c'est celui d'une colocatrice qui a besoin de soins. Voilà. Un petit peu comme toutes les autres.
Dans oui. La ville, dans cette ville-là, d'être à dans Marseille. La ville, c'est important ?
Ah oui. Ah oui, oui, c'est très important parce que justement, l'après-midi, donc comme on est libre, c'est une façon d'être. De pouvoir cheminer soit seul, soit avec des amis, mais. Moi, je sais que je suis assez solitaire, mais bon, j'en profite pour m'échapper de mon quotidien.
Donc ça, c'est une petite interview d'une participante de Toi et Moi et qui pose comme ça un petit peu les choses, qui explique un peu son rapport au logement. Je pense pas qu'on gardera ça comme ça dans l'objet final, puisque moi, mon travail, c'est d'arriver à faire que chacun décrive et donne une forme à son rapport au logement. Donc Jocelyne, elle parle volontiers des quatre colocataires avec lesquels elle vit. Elle décrit comme un vrai drame shakespearien les passions et les confidences et les rapprochements et les éloignements de ces cinq femmes entre elles. Donc je voulais donner un contrepoint au son de l'intérieur en allant chercher les sons de la ville. Et les sons de la ville la rassurent, la sécurisent et sont bien plus du côté du réel que du côté de l'imaginaire. Et je trouve ce petit bout de balade intéressant parce que finalement, la ville, elle fait réalité et elle fait centre et elle fait réassurance. Et c'est elle qui, en même temps, paradoxalement, rompt le quotidien. Et je pense que quand elle parle du quotidien, à la fin, elle parle de la vie quotidienne dans le logement. Et la ville, elle fait divertissement aussi. C'est un petit maillon qui met en scène l'inclusion physique, en tout cas, des patients dans la ville. Voilà. Donc c'est un petit pas de ce côté-là.
Je trouve intéressant d'une voix à l'autre ce que ça raconte aussi de la ville et de ce qui assure, enfin de ce qui réassure qu'on n'attend pas forcément les bruits de la ville chez Jocelyne, c'est ça. Chez David, c'est ce stade où il vient jouer et là où il trouve un refuge. J'ai trouvé ça assez fort de pouvoir les entendre l'un et l'autre, à leurs endroits.
Mais c'est vrai que qu'est-ce qui fait maison, quoi? Qu'est-ce qui fait qu'on habite quelque part? Qu'est-ce qui fait qu'on est chez soi quelque part? Est-ce que c'est un stade? Est-ce que c'est une encoche de porte? Est-ce que c'est un tramway? La récurrence d'un tramway sur un boulevard, c'est qu'est-ce qui sert à habiter le monde et à être présent à soi et donc aux autres? Et à l'espace. Et c'est des choses qui sont un peu évidentes pour tout le monde, mais pas pour tout le monde, en fait.
Mais non, en fait. Non. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'on est chez soi dans cette...
Qu'est-ce qui fait qu'on est chez soi? Qu'est-ce qui fait que j'arrive à vivre à Marseille et que j'en... C'est pas chez moi. C'est pas chez moi, mais qu'est-ce que c'est chez moi?
Aujourd'hui, je prends plein de pilules. Parce qu'il paraît que je suis bipolaire. Je l'écris, comme ça vous vous en souviendrez, bipolaire, voilà. C'est-à-dire que je passe de la dépression à l'état maniaque où franchement tout va super bien et que je redescends à la dépression. Donc ma vie, elle est comme ça. Et ça fait depuis ça fait longtemps, plus de 10 ans. Bon, de temps en temps, je vais à l'hôpital. Ils me refont une santé, et puis après, je m'en vais. Et je reprends ma vie. Et ma vie, c'est les ordinateurs. Je suis informaticien. Je travaille sur des choses très compliquées, avec des bases de données. On appelle ça le data. Ou big data. Quand j'en parle aux autres, ils comprennent rien. Mais alors je n'en parle pas. Ou peu. Mais c'est ma passion, je fais que ça. Donc voilà, j'ai des médicaments tous les jours. Voilà, bon. J'ai appris à les manger par 4, 5, 6, 8, 10. Ce qui me dérange le plus, c'est d'aller à l'hôpital. Ça, vraiment, ça me fait chier. Alors j'y vais le moins possible. Mais des fois, on pète un plomb. Surtout quand on est en haut, là. Là, ici. Là, c'est dangereux. Parce que tu te sens Superman. Ou comme si tu avais pris 3 lignes de coke. Donc tu es drogué. Mais naturellement, par le cerveau.
Ça, c'est un moment un peu précieux de la fabrication donc de terrains de jeu qui se déploie sur deux terrains. On travaille sur deux terrains avec Lionel, donc le terrain de football dont j'ai déjà parlé, et puis le terrain du 3 Bicef, qui est un lieu d'art contemporain où on a été accueillis une première fois en janvier. On y reviendra au mois de mai. Et là, on invite les joueurs, mais tous les joueurs, donc potentiellement aussi les patients de Montperrin, du public de Montperrin, à venir dessiner dans un geste qui est plus proche de l'art brut, si on lui met une étiquette. On invite les joueurs donc à se dessiner. Donc deux questions sont posées, à quoi je jouais, à quoi je joue. Et voilà quelle est la réponse de Philippe. Donc on entend en arrière-fond le bruit de la craie. Donc là encore, c'est pour il s'agit de tisser cette utopie possible, à savoir est-ce qu'on peut continuer à jouer et quels sont les endroits où on peut continuer à jouer. Est-ce que c'est le plateau, l'endroit où on pourrait continuer à jouer? Voilà, c'est les questions qu'on essaye de poser.
Moi, ce que je trouve intéressant dans ce témoignage-là, on a l'impression qu'il joue avec sa maladie et la façon dont il peut la mettre en scène. Et il l'a mise à distance. Et je crois que c'est un moment où nous, on peut commencer à travailler. Parce que dans ce geste qu'ils font de la mettre à distance, alors l'auteur, il commence quand même à naître. Et que moi, au départ, j'ai commencé à travailler en psychiatrie à l'hôpital. Ça veut dire dans le temps plein. Ça veut dire cet hôpital dont il parle et auquel il veut pas revenir. Et moi, j'y allais une fois par semaine. Donc les patients, à ce moment-là, ils sont plus en crise. Donc ils sont plus délirants. Donc il y a le délire à accueillir. Et la question, c'est quelle place on peut donner au délire quand on dans un travail de création? Et elle est mince, cette place-là, parce que quelqu'un qui est en délire, je ne sais pas s'il est totalement auteur et s'il peut vraiment signer ce qu'il a déposé. Alors qu'avec un Philippe ou avec les autres avec lesquels on travaille, le chemin, il est déjà amorcé. Le chemin de mettre à distance sa maladie et la création peut venir là. Et le travail que moi, je fais avec eux en ce moment dans Toi et moi, c'est bien ce chemin-là au fil duquel ils vont prendre la distance par rapport à leur production. Et c'est dans ce chemin-là qu'il peut y avoir une signature. Et il y a un des patients qui m'a apporté un texte qui est comme ça, tout brut, qui fait deux pages, trois pages, complètement dense, sans aucune ponctuation, et où il parle de lui, où il parle de sa maladie, où il parle du logement, et qui sont passionnantes. Et il me les pose en me disant, tiens, je t'ai écrit ça pour t'aider. Et moi, je lui réponds, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Et il sait pas pour l'instant. Et tant qu'il sait pas, eh ben, on est dans une matière qu'on peut pas, que moi, je l'avais amené pour le lire, mais je peux pas le lire parce que c'est pas encore projeté et il y a pas encore le spectateur dedans. Alors que moi, quand j'écoute Philippe, je sens qu'il sait à qui il parle et qu'il parle à un tiers et que donc le spectateur il est là et donc l'inclusion du spectateur dans la folie, elle est en train de se faire et donc là on peut travailler. Ouais. Mais c'est un chemin.
You did it! Just like that, Elliot, you're gonna change the world.
We did this.
I would love to take credit on this one. But I can't. No, really, this was you.
En fait, moi, Mister Robot, ça me porte parce que c'est donc un personnage qui est caractérisé comme schizophrène et qui a un hacker. Et qui est un hacker brillantissime et qui fonctionne parmi les autres, donc aide des sociétés à s'en sortir parce que veille à leur vie numérique et la protège, et tout en étant fou. Et donc c'est une vision de la folie que je trouve intéressante parce que ça ouvre une ère où ceux qui sont différents sont parmi les autres, fonctionnent parmi les autres, sont brillantissimes parmi les autres, les aident, les protègent, et donc c'est plus binaire, quoi. C'est plus un monde binaire. Il y a les fous et puis d'un autre côté les normaux. Non, tout se mélange. Et moi, je trouve que c'est une vision assez postmoderne de la folie qui, à mon avis, parle aux jeunes, parce que je pense que les jeunes d'aujourd'hui, ils voient pas le fou comme l'autre, l'étranger, qu'ils ne seront jamais. Je pense qu'ils peuvent s'identifier à un fou, et je pense que la série fonctionne grâce à ça, parce que les jeunes aujourd'hui peuvent s'identifier au fou. Elliot, c'est un personnage qui est jeune, et sa maladie a été prise tôt, et donc du coup, il fonctionne parmi les autres. Et moi, ça aide à ma façon, ça modifie ma façon de voir les fous, et donc ça m'aide à travailler actuellement.
You're Darlene.
Dang it.
You're Darlene.
C'est vrai que c'est étonnant à quel point les personnages de série, là, depuis quelques années, à quel point la folie est complètement intégrée dans certains des personnages. Et que ce soit, par exemple, Kerry Madison dans Homeland, je pense aussi au personnage de Soga dans Boron. The Bridge, enfin là, je sais plus si c'est une série suédoise ou danoise, en tous les cas. Et en tous les cas, dans ces deux cas-là, là aussi, ce sont des personnages brillants, qui sont complètement parmi nous, avec nous. Et alors, est-ce le temps de la série qui permet de déployer des personnages aussi finement dans toute leur complexité? En tous les cas, ils sont complètement, complètement parmi nous. Et il y a un décalage tel avec la manière dont les médias s'emparent du sujet lors de moments voilà, ça s'emballe après un fait divers ou durant un fait divers. Et je trouve qu'en effet, c'est très très riche, extrêmement riche.
Ah, il faut les regarder. Ça déplace notre regard.
Ouais, il faut les regarder avec attention, la manière dont ces personnages sont écrits, et souvent extrêmement finement en fait. I'm crazy. I'm out of my mind. I knew it. I should have never created you. I should have listened to Krista.
See me, Elliot Alderson. I am here.
Soga, elle est pas folle du tout.
Oh.
Moi, je trouve pas du tout.
Qu'est-ce qui vous fait penser que ça pourrait être vrai ?
Si moi, je suis pas... Dans le travail que je fais en psychiatrie, si moi, je suis pas celle qui pense que ça peut être vrai, alors je vais les perdre, eux. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui endosse ce rôle-là. C'est une histoire de rôle, tout ça. Et il faut que ce soit moi qui endosse le rôle que la réalité est tangible pour qu'ils s'arriment, pour les aider à s'arrimer quelque part. Je peux pas défaire ce lien-là. Oh. Alors, je parle plus de réalité que de vérité. Moi, la vérité, c'est pas mon registre. Mais d'essayer de créer un monde qui nous serve d'ancrage, oui, c'est mon rôle.
Oui, la vérité. Moi, je répondrais peut-être parce que je suis porté par ce terrain de jeu qu'on ne cesse de traverser, mais j'irais du côté du jeu, quoi, du jeu J-E-U, et d'essayer à construire et à insister, à construire du jeu ensemble, de continuer à s'amuser beaucoup, et donc à créer beaucoup. Mais je parlais d'art brut tout à l'heure, moi, c'est quelque chose qui continue à me porter. Donc, voilà. On a souvent été ému par ce qu'on a entendu, mais la légèreté nous porte, et très souvent, dans ce qu'on traverse ensemble, en psychiatrie, il y a énormément de joie.
Venez d'écouter les voix de Séverine Mathieu et d'Emmanuel Vigier, mais également quelques extraits de leurs films et des créations musicales qui les ont accompagnés. Les créations de Géry Petit pour le film Terre commune et celles de Lionel Casparian pour Héros, que vous pourrez voir le 22 avril prochain aux Variétés. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne continuation à tous sur les 3-8.